שלום. בוקר טוב, ובעזרת השם מוזרים ולא פרלה דה לה ונרציון דה לה גאולה דה לה כניסום ודה לאימפורטנס דה פרנטל און עברו ללמד זכות על ישראל, כתביר דה d'enseigner le coût, le mérite de notre peuple. Parce que les choses ont lieu, est-ce que la Géoula dépend du mérite que nous enseignons sur notre propre peuple, ou bien est-ce que la Géoula s'opère malgré tout, peu importe la vision que nous avons de notre propre nation. Kevin Tirani Nisaïm Bislava Mahazar, c'est Ben Sofa Galut, le Ben Trilat à Géoula. Puisque nous sommes dans la charnière du temps, entre la fin de l'exil d'une part et le début de la Géoula d'autre part, המהלך ההיסטורי של ימינו מופיע בכל מורכבותו. בדיין, l'apparition de notre génération et de notre avancée historique, elle apparaît avec toute sa difficulté et toute sa complexité. C'est-à-dire, il y a ici une complexité qui apparaît avec le processus de la Géoula, de la rédemption. La question est simple, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne fait pas en sorte que la Géoula soit simple? Pourquoi la Géoula doit emprunter des événements difficiles pour arriver en fait à ce dévoilement? Dévoilement de quoi? Des valeurs divines sur terre. Est-ce que lorsque Dieu, entre guillemets, descend sur terre, ça fait des dégâts? Ou bien est-ce que lorsque Dieu descend sur terre, ça arrange les choses? On a l'impression que les deux choses sont vraies. On voit comme s'il y avait une destruction, une certaine destruction de certaines valeurs, et une mise en place de valeurs nouvelles. Au moment où Akadosh Baruch Hu descend sur terre, quand je dis descend, bien entendu, c'est que des voiles. Vous avez donc des gens qui se disent qu'il vaut mieux que Dieu reste en haut, dans son ciel, parce qu'à chaque fois qu'il descend ici, c'est une catastrophe. Ou bien parce que c'est des valeurs qui ne correspondent pas au niveau de la terre, car les valeurs divines sont trop grandes, il y a trop de demandes, il y a trop d'attentes, on ne peut pas attendre de l'humanité d'être divine, il y a un décalage tellement grand que la rencontre crée une destruction. Et d'autres disent, au contraire, on a besoin de cette destruction parce que ce n'est pas une destruction de bonnes choses, c'est une destruction de mauvaises habitudes. Et donc, pour arriver à revenir à une véritable nature, il faut détruire en fait la nature précédente. Donc c'est bien que Dieu descende sur terre, mais même si ça fait des dégâts. Car ce sont des dégâts qui sont constructifs, et non pas des dégâts destructeurs. En tout cas, la chose est complexe. Donc cette rencontre avec l'au-delà, cette rencontre avec les valeurs du divin sur notre terre, crée des perturbations. Allez-nous les avoir, mais nous devons comprendre. Est-ce du vrai Hanavi, les paroles du prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 9? à Corée, qui appelle Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion. L'annonciatrice de Sion, qui devra monter sur une montagne haute. Donc l'Éternel s'adresse à celle qui va annoncer Sion, et il lui dit qu'il devra monter sur une montagne qui est haute. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Harimi Bakor Koler, on a d'abord une notion féminine. Ron, il parle au féminin. Donc Dieu parle à une femme. En tout cas, à quelque chose qui est de l'ordre du féminin. Nous avons déjà expliqué à d'autres cours que le féminin étant le révélateur de chaque niveau, donc Akadosh Baruch Hu parle maintenant d'une révélation. Et donc il lui dit à cette révélation, si tu veux révéler Sion, tu dois monter sur une montagne très haute. Si tu veux révéler Yerushalayim, tu devras même parler d'une manière très haute. Harimi Bakor Kolech Mevaseret Yerushalayim. Mevaseret veut dire annonciatrice, Mevaseret, annoncer. Donc si tu veux annoncer Yerushalayim, tu devras monter l'intensité de ta voix. Je répète donc le verset pour qu'il soit un petit peu plus clair. Dieu s'adresse à une forme féminine, on ne sait pas laquelle pour l'instant, et il lui dit, au moment où tu devras annoncer l'arrivée de Sion, tu devras monter sur une montagne haute. Et au moment où tu devras annoncer Yerushalayim, tu devras élever la voix. Nous avons donc ici Sion et Yerushalayim, là aussi deux niveaux de Jérusalem. Nous avons une forme féminine qui annonce les deux. Et nous avons, en fait, par la bouche du prophète Isaïe, une demande d'Akadosh Baruch Hu à celle qui va annoncer Sion et Yerushalayim et de monter sur une montagne haute et de mettre à un haut niveau sa voix. La suite, Harimi, élève Al-Tirai, n'est pas peur. Elle élève quoi, on ne sait pas. On a l'impression, par suite logique, que c'est la voix, c'est-à-dire lève ta voix, on lui a dit tout à l'heure, et là il rajoute, élève, ou élève-la, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Imri le'ave Yehuda dit, toujours au féminin, aux villes de Judée, Vine Elohechem, voici votre Dieu. Alors, nous allons en réalité un petit peu nous attarder sur ce verset, un verset clé de la rédemption d'Israël qui, après, aura pour résultat la rédemption du monde tout entier. Je pose une question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer Sion ? Mais va faire Sion. Et qu'est-ce que ça veut dire, mais va faire Yerushalayim, annoncer Yerushalayim ? C'est-à-dire qu'il y a deux demandes pour annoncer une fois Sion et pour annoncer une fois Yerushalayim. Or, il y a une différence entre les deux. Pour annoncer Sion, il faut monter sur une montagne, qu'il soit haute. Et pour annoncer Yerushalayim, il ne faut plus monter sur cette montagne, il faut élever la voix. Qu'est-ce que le texte, qui est bien entendu codé, vient nous enseigner? On va essayer de décoder en fait les paroles du prophète. Vous comprenez bien que le prophète lui aussi reçoit un message codé, et il doit comprendre en réalité ce qui se cache à l'intérieur de ce message. Pourquoi faut-il monter d'abord Al-Har Gavoa, sur une montagne haute, pour annoncer Sion? Qui est Sion? Je pose une question. Que représente Sion? C'est Yerushalayim? Alors pourquoi on ne dit pas Yerushalayim? si la Torah elle utilise un autre nom, si le Tanakh utilise un autre nom, c'est qu'il a une raison. Une deuxième notion. Justement, quelle est cette notion? Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun mot gratuit. Le prophète ne peut pas rajouter des mots comme nous, quand on fait un discours, on essaie de broder, on rajoute des mots, c'est pas ça. La Torah est tellement avare que chaque mot compte. Sion, c'est quoi? Petit Israël?
La royauté.
Quelle royauté? Quelle est la valeur numérique? Je vous aide un petit peu. De Sion. Yosef, Yosef, Sion, c'est 156. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du 156. Et le 156, c'est Yosef. Donc, je dois annoncer en fait Yosef. Alors, qu'est-ce que c'est Yosef? Celui qui rajoute. Mais il rajoute quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Il y a une royauté qui s'appelle Yosef. Laquelle? Comment ça s'appelle? Yafé Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que, avant d'avoir Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef. Donc on a en réalité affaire à deux messies. Ou bien en réalité deux parties d'un messie, peu importe. Première partie s'appelle Mashiach ben Yosef. Quel est son rôle à cette royauté venue de Yosef? Qu'est-ce qu'elle doit traiter, cette partie de matière de Yosef? Du matériel, c'est-à-dire de la structure, première structure sur laquelle va pouvoir se déposer matière ben David. D'accord? Deuxième matière, ou deuxième étape. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, la structure matérielle ou la structure de... tout ce qu'il faut pour préparer le terrain à matière de David, qui d'après ce qu'on est en train de dire, c'est la phase, quelle phase c'est, si la première c'est une phase matérielle, donc c'est plus au niveau de l'esprit. Donc nous avons un petit peu décodé déjà, nous avons deux degrés de matière, premier degré s'appelle matière de Yosef, qui est le degré matériel, deuxième degré matière de David, qui est le côté esprit. Profondeur, souffle, divinité, sainteté. Pourquoi, d'après vous, le côté matériel, donc matière de Yosef, doit précéder le côté spirituel, matière de David? Tu n'as pas encore répondu à ma question. Pourquoi il faut précéder le côté matériel au côté spirituel? Pourquoi le côté spirituel n'arrive pas avant? Parce qu'il faut préparer quelque chose, un terrain. C'est-à-dire, sur quoi va se déposer Mashiach ben David? Sur une structure. Sur ce que Mashiach ben Yosef, en tout cas sa période, aura préparé. Donc Mashiach ben Yosef doit préparer une structure nécessaire pour que Mashiach ben David, donc pour que les valeurs de l'esprit viennent s'y déposer. Alors qu'est-ce qu'il faut préparer dans la phase Mashiach ben Yosef, d'après vous? Qu'est-ce que comporte cette première phase? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme structure? Un temple. Ken, tu parles d'un temple. Est-ce que le temple c'est Mashiach ben Yosef ou c'est Mashiach ben David qui doit le construire? Est-ce que le temple ce n'est pas déjà une révélation de Dieu sur terre? Qu'est-ce que c'est le Kélim? Donne-moi des exemples. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'esprit se dépose quelque part? On va reprendre l'exemple d'un bébé. D'accord? Un bébé qui vient de naître. Est-ce qu'on voit sa Nishama? Oui ou non? Oui, est-ce qu'on voit l'expression de sa Neshama, oui ou non?
C'est
est-ce que tu vois chez un bébé l'expression d'un estomac? Qu'est-ce que c'est l'expression d'un estomac pour un homme? Marcher et parler. D'accord? Il ne faut pas raconter n'importe quoi, c'est pas parce qu'il fait des gestes. Hein. Parce qu'un chat aussi fait des gestes. Et il miaule. Qu'est-ce que c'est que l'expression d'un estomac? C'est la parole pour un homme et la marche. Quelqu'un qui marche et qui parle, c'est un homme. Car nous avons aussi cette capacité. Est-ce que chez le bébé, ça apparaît immédiatement dès sa naissance? Non. Qu'est-ce qu'on s'occupe à faire chez le bébé pendant un an et demi, avant qu'il commence à dire des petits mots? On s'occupe de quoi? C'est-à-dire que de son corps. Donc il faut préparer son corps pour qu'un jour la Neshama puisse apparaître, se déposer par la parole. Donc les premières années de la vie du bébé, tu ne vas pas t'occuper de ta Neshama, tu vas t'occuper de la structure physiologique de ce bébé. Mais la même chose au niveau de notre Géoula. Les premières phases de ce bébé, on va comparer ça à un bébé, tu sais, il faut s'occuper de quoi? De toutes les structures nécessaires pour que l'esprit apparaisse. De la même manière que c'est le bébé j'attends une marche ou une démarche et une force de parole, eh bien, le peuple d'Israël doit un jour commencer à parler et à avoir aussi une marche vers quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Des choses simples dans notre monde aujourd'hui. Ça, c'est déjà le côté spirituel. Tu es déjà dans l'esprit. Un bébé, je ne lui enseigne pas la Torah à l'âge de 6 mois. Qu'est-ce que c'est que le Lidot? Donne-moi des exemples. Au niveau de notre futur aujourd'hui, je parle de ma fière de Yosef. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'un jour, justement, cette lumière de Torah puisse apparaître? Quoi? Tu vas déjà au niveau trop loin. Est-ce que le bébé, je vais commencer à lui parler des problèmes d'ego? Reprenez l'exemple du bébé. Ne vous éloignez pas. Tu vas déjà loin. C'est déjà au niveau du tikkun de midot, ça vient de dire. C'est-à-dire, c'est ce que tu lui apprends? Ok. C'est-à-dire, d'abord, tu lui crées une structure. D'accord? Tu le mets dans une chambre. Tu lui prépares un lit, tu lui fais à manger, tu le laves, c'est fait. Ça veut dire quelle est la première phase de notre structure messianique? Je sais construire des routes, construire des autoroutes, construire des robinets pour que je puisse boire, me donner une capacité de développer du sang pour que je puisse manger, comme un bébé. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une structure économique, sociale, et que je puisse me protéger contre mes ennemis, c'est-à-dire une armée. C'est simple. Donc, j'ai besoin d'une monnaie, j'ai besoin d'une structure pour manger, pour vivre, pour boire, pour exister, et j'ai besoin d'une économie par rapport à mon enrichissement. Ça, ce degré-là s'appelle Mashiach ben Yosef. Donc Mashiach ben Yosef va s'occuper de toute cette structure très simple, très basique, je dirais même primitive, sans laquelle je ne pourrais pas avoir une structure de Torah. Car quelqu'un qui n'a pas ni de quoi manger, ni de quoi boire, ni de quoi se protéger, comment pourrait-il étudier la Torah ou recevoir une certaine Torah? Il est presque mort. Si ce n'est déjà qu'il est mort. Donc la première structure est une structure très matérielle. Mashiach ben Yosef, donc Sion. Donc quand vous entendez Sion, vous entendez Yosef, Mashiach ben Yosef. Maintenant je vous pose la question, pourquoi le prophète nous dit Al-Har Gavor, Alilah? Pourquoi tu dois monter sur une montagne haute pour annoncer Mashiach ben Yosef, cette structure politique en fait? Pourquoi ils sont montés sur une montagne haute? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le message veut nous dire ici? Tu as raison, ça veut dire que pour les gens entendre, il faut monter sur une autre montagne. Mais pourquoi? Pourquoi ils doivent entendre? Pourquoi Dieu nous dit? C'est comme s'il disait au prophète, si on ne monte pas sur cette haute montagne, personne ne va t'entendre. C'est ça que ça veut dire. Enfin, tu as raison, tu as touché le point. Mais pourquoi? Quoi? Mais pourquoi? Par rapport à qui les autres? C'est qui les autres? Pourquoi tu dois te mettre au-dessus du peuple? Mais pourquoi? Et alors? Ça veut dire qu'apparemment, certaines personnes ne vont pas comprendre la nécessité de cette première phase. C'est-à-dire, on est venu en Eretz Israël, on s'en fiche de tout, il nous faut que de la Torah, que de la lumière. Akadosh Baruch Hu dit au prophète, attention, si tu ne montes pas très haut sur, c'est-à-dire si tu ne balances pas ton message à un niveau très imposant, les gens ne vont pas t'écouter. Et on a vu effectivement que même comme ça, c'était difficile. Aujourd'hui même, il y a des gens qui n'acceptent pas l'état d'Israël. Ils nous disent, on s'en fout de cet état, nous on attend que de la Torah, c'est tout, que le Mashiach ben David. Ça n'existe pas autre chose, on s'en fiche de la politique, on s'en fiche de la structure, on s'en fiche des routes, de l'économie, on ne veut pas même pas servir à l'armée parce que ça ne sert à rien. Vous entendez ces voix ou pas? Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour faire accepter que la Géoula touche aussi ce genre de choses, c'est très difficile à faire pénétrer dans le cerveau des gens. Le cerveau des gens, de 2000 ans de vie, qui sont devenus très religieux, ont du mal à croire qu'Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans l'armée d'Israël, ou dans l'économie d'Israël, ou dans l'infrastructure sociale d'Israël. Pour eux, Dieu n'existe pas là-bas. Dieu se trouve à la Yeshiva, dans la Torah seulement. Il n'est pas dans les affaires que tu es en train de développer en Israël. Et le prophète vient nous dire, attention, si tu veux prophétiser sur la pierre de Yosef, sur cette structure-là, qui n'est pas facile à avaler pour quelqu'un qui a vécu 2000 ans en vie, il va falloir que tu montes sur une haute montagne, c'est-à-dire que ton message soit clair, entendu et très élevé. Il va falloir faire comprendre au peuple d'Israël que même cette phase est nécessaire et qu'elle fait partie de la Géoula. Deuxième partie. Arim Bakor Colère, mais va faire être Yerushalayim. Maintenant, c'est plus Sion que Yerushalayim. Que représente Yerushalayim? Mashiach ben David. Qu'est-ce que c'est que Mashiach ben David? Quel est son rôle? Révéler quoi? Le divin. Cette fois-ci, on est dans le collège. Donc, il va falloir préparer donc une structure sociale, économique et tout le reste pour pouvoir après asseoir une structure de Kodesh. Donc le Kodesh va s'installer sur une structure de Chol qu'il y aura précédé. C'est clair ce que je suis en train de dire. Si tu n'as pas de structure de Chol, le Kodesh ne peut pas se déposer. Que veut dire le mot Chol en hébreu? Se déposer. La roule. Matai chal Hadat Shavuot. Quand est-ce que va tomber la fête de Shavuot? Donc le mot c'est chalou. Donc la roule, c'est en réalité se déposer, apparaître. Et donc il faut une structure de rôle pour être le contenant de la structure codée. Moralité, si tu n'es pas sain de corps, tu ne pourras pas avoir un esprit clair parce que ton corps est malade. Quelqu'un qui est malade, il s'occupe de quoi? De sa maladie. Il n'a pas le temps d'étudier. Il est cloué au lit dont son corps ne fonctionne pas comme il faut, tu ne vas pas lui demander maintenant de commencer à étudier. Il faut qu'il soigne son corps. De la même manière, au niveau de notre peuple, si notre état, si notre première structure n'est pas saine, si elle est malade, on ne pourra pas avoir une structure de code solide. Plus le bébé va être fort dans ses premières années de sa vie au niveau physique, plus le code qu'il pourra contenir et révéler sera grand. Quand ça, il sera un petit peu plus grand. Mais si Khaz et Shalom, le bébé est malade, tu ne pourras même pas le rentrer des valeurs de code. On est d'accord. Moralité, Mashiach ben Yosef précède Mashiach ben David et il prépare sa venue. Mais Mashiach ben David, donc, ici comparé à Yerushalayim, pourquoi Dieu demande au prophète Harini Bakor Koler? Qu'est-ce que c'est Harini Bakor Koler? Tradition Harim, Harim, élever avec force ta voix. Qu'est-ce que c'est que élever avec force ta voix? Tout à l'heure, il fallait monter sur une autre montagne, sinon on ne t'écoute pas. Maintenant, pour faire comprendre que le code est important, apparemment là aussi, si tu ne sais pas Harimi, Bakor, Koler, certaines parties du peuple ne vont pas accepter. En l'occurrence, peut-être même ceux qui ont bien préparé la première structure, c'est-à-dire on leur a construit des routes, des affaires, tout ce que tu veux, et maintenant on leur dit, bon, il y a la deuxième phase. Et ils disent, non, nous on est tranquille, laissez-nous tranquille, on veut juste du sionisme non religieux. Laissez-nous tranquille avec le code. Donc ici, c'est une maladie. C'est-à-dire le bébé a grandi, et c'est une petite famille que de la musculation. Il mange comme un loup. Il est bien structuré, bien musclé, mais à chaque fois qu'il vient lui donner une valeur de codé, il te dit non, laisse-moi tranquille, moi je suis juste dans la salle de vie. Ça va pas. Je suis que dans mes affaires. Ça va pas. Ça, c'est une structure pour contenir la deuxième phase. Et là, tu es en train de perdre la deuxième phase. Donc, comprenez qu'il y a en réalité deux sortes de malades. Ceux qui ne veulent pas la première phase, qui ne veulent que la deuxième. Et ceux qui veulent que la première et qui ne veulent pas la deuxième. C'est un problème. Et nous venons dire, selon le prophète, donc à Kadosh Baruch Hu lui-même, il faut les deux. Et l'une avant l'autre, dans cet ordre-là. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Que veut dire Harini Bakor Kolet? D'abord, il faut se poser la question, que veut dire colère? Ta voix, vous avez traduit ta voix. C'est magnifique en français, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quel est l'inverse avec Dibourg, avec ma parole? Une voix qui dit que c'est plusieurs personnes. Vas-y, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu es en train de développer, tu es dans le bon. Oui. Quoi? C'est quoi cette voix? Tu as bien commencé. Pourquoi ça veut dire que c'est plusieurs? Ça veut dire que c'est la voix de qui? La fait. Donc ce n'est plus une parole, car la parole elle est limitée à moi, à toi. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la voix. J'allais dire même pas V-O-I-X. Mais V-O-I-E. C'est-à-dire qu'il y a un idéal qui passe par cette voix. Donc ce n'est pas quelque chose qui est audible aux oreilles, la voix, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Donc à chaque fois que vous entendez le mot « col » dans la Torah, ce n'est pas ce que vous entendez avec la bouche. Là, vous n'entendez pas mon col, vous entendez mon dibour. C'est pas pareil. Le dibourg, il est extérieur. Le col, il est intérieur. Par exemple, la bracha, lis-moi, col, chauffard. Qu'est-ce que vous entendez dans le chauffard? C'est pas le son du chauffard, comme on dit en français. C'est en réalité un souffle intérieur qui te perturbe et qui vient remuer quelque chose en toi. C'est ça qu'il faut entendre. Moshe yedaber, veha Elohim ya'anenu bekol. Quand Moshe est au Mont Sinaï, Moshe parle, Moshe Yedaber, écoutez bien les termes, lui Moshe Yedaber, et Elohim y a amenu Bekol, et Dieu lui répond par une voix. C'est pas une voix comme vous voyez dans les films, oui, je suis l'éternel, de bêtises. Il y a une voix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui me pénètre, mais que je n'entends pas avec mes oreilles. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, je recommence ma question. Qu'est-ce que ça veut dire à Rimi Bakor Kolech? Mais va faire Jérusalem. Pour annoncer la deuxième phase, donc le Matiar Ben David, qui est le Kodesh, il faut élever avec puissance cette voix-là. Autrement dit, il faut mettre en relief quoi? La voix du peuple, qui est une voix intérieure, le message subliminal, le message profond de la nation d'Israël. Est-ce que c'est ça qui met en relief? Autrement dit, si ce n'est pas ça qui mettra en relief, tu ne pourras pas annoncer Matiar Ben David. Donc les gens qui sont entre guillemets non religieux et qui sont dans la structure de l'État d'Israël ne voudront pas t'écouter. Est-ce que vous pouvez me traduire avec vos mots à vous ce que je viens de dire maintenant? Quelle est la raison pour laquelle les non-religieux ne veulent pas être à l'écoute des gens qui sont dans la Torah pour la deuxième phase que nous sommes en train de vouloir instaurer maintenant dans notre peuple? Pourquoi les philonymes ne veulent pas entendre parler des religieux? Parce qu'ils n'ont pas ces religieux intégrés, le... Première raison, peut-être qu'ils n'ont pas voulu intégrer Matiar Ben Yosef, c'est-à-dire qu'ils ont refusé la première phase. Qui sont les acteurs de cette première phase? Bien sûr, mais je parle maintenant des autres. Les maintenant, ceux qui sont maintenant dans la Torah, comment ça se fait que les philonymes ne les écoutent pas? Alors, et les philonymes se sont arrêtés à la première phase, et les religieux peut-être n'ont pas accepté cette première phase, puisqu'ils refusent en réalité l'État d'Israël, ou bien, deuxième possibilité, que les deuxièmes, les religieux, la première, ils ne disent pas ce qu'ils n'entendent pas. Ils ne parlent pas avec la voix du peuple, ils parlent avec une voix qui est une parole individuelle, d'une Torah individuelle. Et donc le philonyme qui est juste à côté, il n'entend pas quelque chose qui le concerne. Il va dire, oui, ça te concerne à toi, tel que tu dis la Torah, mais tu ne parles pas en mon nom. Je vais essayer d'expliquer ce que tu es en train de dire. Vous comprenez? C'est très profond. Il y a fait une erreur. Et si tu parles avec? Magnifique. Celui qui dit. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux faire passer ta Torah à un triloni, entre guillemets, quelle Torah il pourra entendre? Il y a fait un ordre. Et non plus la Torah individuelle de « ça c'est cassé, ça c'est passé, ce matin », il va dire « mais laisse-moi tranquille avec ça ». C'est pas ça qui me parle, moi. Donc, moralité, moi, en tant que religieux, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais je suis obligé de l'utiliser. Qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui? Quel est le stage que je dois faire pour pouvoir être accessible à la philonie? Aussi un terme que je n'aime pas. Mais peu importe, j'utilise pour facilité. Qu'est-ce que je dois étudier comme Torah? La Torah, c'est commune à lui et à moi. C'est-à-dire une Torah qui est bien au-delà de... C'est-à-dire une Torah qui parle à la Nishama de ce philonie comme elle parle à la Nishama du Gadi. Bien fait. En tout cas, dans la première phase. Quelle est cette Torah-là? Est-ce qu'il y a une Torah que vous connaissez qui est comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce genre de Torah? C'est une Torah qui est obligée d'être la Torah des... versets de secret. C'est-à-dire la Torah qui parle de la vie d'une manière générale. La Torah qui traite du cosmos. La Torah qui traite en fait de tout l'univers. Et pas seulement de ma petite assiette qui est le Bedin de matin ou le Bedin de Strasbourg. Bien fait. Maintenant, tu comprends pourquoi le premier terme, c'est Harimi. Harimi veut dire élève. Tant que tu n'as pas élevé ta Torah à un autre niveau, tu ne pourras pas être audible. L'autre ne va même pas t'écouter. Tu vas donner un cours, tu ne vas même pas venir. Tu vas toujours tourner autour des religieux comme toi. D'accord. Oui, mais tu es obligé de le laisser rentrer par cette première phase. Si tu le bloques dès le premier contact avec ça, il n'y aura pas de lien. Donc tu es obligé en réalité de savoir l'accepter premièrement, le faire rentrer dans le jeu en fait, en sachant que j'ai une Torah qui correspond et à toi et à moi, même si on ne se ressemble pas. Même si tu ne manges pas ta sœur. Quelle est la Torah qui, en réalité, est la même pour les deux? Même cette Torah, c'est la même pour les deux, de manger ta sœur. Mais lui, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, il va falloir que je lui parle pour accéder à son cœur, à sa Neshama, à une Torah qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que je vais lui dire, par exemple? Au lieu de lui dire, tu sais, c'est très important de mettre le tefillin tous les matins, je vais en fait disséquer la notion de lien. Elle l'entend. Je veux dire, tu sais, il y a des valeurs dans ce monde. Tu crois à des valeurs. Par exemple, tu es dans la morale, tu n'aimes pas tricher, tu n'aimes pas voler, tu es quelqu'un de bien. Même si tu es chilonique, tu as des valeurs, d'accord? Est-ce que tu veux te relier à ces valeurs d'une manière encore plus forte? Eh bien, la Torah qui n'est pas une religion. C'est pas venu nous donner seulement de petites valeurs de la question tous les matins parce qu'on est religieux. Ce qui nous, tel que tu les vois, c'est le meilleur moyen pour capter encore les énergies que toi aussi tu crois. C'est-à-dire des morales, des types, des machins. Donc il pourra mettre les filines sans être religieux. Il va commencer à mettre les filines. Ou mettre en talit katan, je connais des gens qui sont en talit katan mais qui n'en pratiquent pas. Ça veut dire qu'il y a en réalité une acceptation de l'autre pour le laisser rentrer. Et attention, ça c'est que dans un sens. Mais là je suis un dictateur. Je viens comme si lui n'a rien à m'apprendre. Il n'y a que moi qui peux lui apprendre. Ça aussi c'est une erreur. C'est un être vivant, non, Ribbonot et l'Olam. Est-ce qu'il a des valeurs que peut-être moi j'ai oubliées? Est-ce qu'il a une morale que moi je peux être oublié? Moi aussi, je dois apprendre de lui. Donc, viens m'enseigner tes valeurs. Toi aussi, c'est une Torah commune. Il n'y a pas que moi qui puisse t'apprendre. Toi aussi, tu peux m'apprendre. Parce que si je viens chez quelqu'un avec l'idée et il me voit comme tel, je veux te rapprocher de la Torah, ne t'inquiète pas. Il se dit, mais celui-là, il prend pour Dieu. Lui, il détient la vérité. Nous, on est dominables. Je ne peux pas accepter. Si tu viens en disant « Moi, j'ai à apprendre de toi, et toi, tu as à apprendre de moi », on va se compléter. Donc, il va falloir monter de niveau, tu comprends? Harimi. Il y a fait mort. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça l'humilité. C'est de faire monter toute la valeur de l'entre-deux. Ni moi, ni toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais monter? Bakor. Qu'est-ce que c'est Bakor? La force, et quoi aussi encore en hébreu? Qu'est-ce que c'est de corps? Il y a de corps et de foal. Ça veut de corps. De corps ou de foal, je viens de vous dire. De corps ou de foal. Des expressions en hébreu de la rue. Il y a fait une théorie et pratique. Donc, moralité, Harimi Bekoar, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois élever quoi? Non, la théorie, Bekoar. Ne t'occupe pas à ce moment-là au niveau de la pratique. Mets en relief le potentiel des choses. Tout ce qui est des croix, qui n'est pas encore des poils, même s'il n'est pas religieux à proprement dit, t'occupe pas de ça au premier degré. Première rencontre ne parle même pas de ça. Colère, on a déjà vu, c'est-à-dire le col, c'est l'essence, la profondeur. Et là, tu pourrais être Mébasseret Yerushalayim. C'est-à-dire annoncer, Mathiarvel, David, les valeurs du Kodesh. Question, pourquoi tout ça est au féminin? Harimi, Kolef, Ali. Qui doit faire ça? Oui, mais alors pourquoi le prophète reçoit ce message? À qui on s'adresse? Aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je pose la question. Il y a plein d'autres. Ça veut dire que je dois, même si je suis un homme, trouver la femme qui est en moi pour pouvoir faire ce genre de travail. Ça veut dire que même Noël, c'est un mec, très matheux. Si je ne trouve pas le côté féminin qui est en moi, je ne pourrai jamais ni monter sur cette haute montagne pour annoncer ma fiasse Ben Yosef, ni élever le potentiel qui est en moi pour trouver le point commun avec mon ami qui n'est pas pratiquant. Donc il n'y a que la femme qui est en moi qui est capable de faire ça. Viens un petit peu plus profondément. Pourquoi? Je sais que ça vous fait plaisir, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Pourquoi le côté féminin, lui, seul, est capable de faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire, elle comprend? Pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'il y a ce sens-là? Vous restez trop dans le savoir encore. Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme, la femme? C'est ce qu'elle a dit, plus divin. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme? Bina, Yetera, Nitna, Lanassim. La femme a reçu plus que l'homme une Bina. Qu'est-ce que c'est Bina? C'est difficile à traduire. Alors, on va le traduire. Quand vous ne savez pas traduire quelque chose, vous mettez le mot masculin. Bina, c'est au féminin? Quel est le masculin de Bina? Ben. Qu'est-ce que c'est Ben? Entre. C'est-à-dire que la femme sait entendre les choses qui sont entre. C'est-à-dire que quand je parle à ma femme, elle entend entre mes mots. Elle n'entend pas seulement les mots que je suis en train de dire. Et quand ma femme me parle, pour que je comprenne ce qu'elle est en train de me dire, il faut que j'entende entre les mots. Sinon, je vais tomber dans le piège de répondre à ce qu'elle vient de dire. Donc je n'ai pas compris le message. Donc ma femme, c'est un cours que je devrais donner aux hommes. Quand ma femme me dit, par exemple, elle est quoi? C'est bon ou c'est pas bon ce que je fais à manger? Elle me pose une question. Moi, ce que je dois entendre vraiment, c'est bon ou c'est pas bon ce que je viens de te faire à manger, c'est ça qu'elle veut me dire? Pourquoi tu ne me dis pas que je suis bien? Pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes? C'est ça qu'elle est en train de me dire. Alors, comme elle ne me le dit pas avec ces mots-là, moi, je dois comprendre si j'ai cette sensibilité qu'elle est en train de me dire ça. Mais elle est prête maintenant à la cloche. Mais c'est pas ça! Où est-ce qu'on a vu quelque chose qui est le col? Rappelez-vous, le col, c'est quelque chose d'intérieur. Avec Abraham et Sarah dans la Torah. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham? Kol aser tomar lecha Sarah, shma, bekola, lo bedibura. Quand Sarah te parle, mon cher Abraham, n'écoute pas ce qu'elle est en train de te dire, écoute ce qu'elle dit entre les mots, bekola. Regardez comme c'est beau. Dieu ne dit pas, écoute ta voix, elle est en train de dire mange, alors tu manges. Non. Quand elle te dit mange, ça veut dire intègre mon amour. Pourquoi tu ne manges pas ce que c'est fait ? C'est pas bon ? Traduction immédiatement dans le cerveau de l'homme. Pourquoi tu ne me trouves pas que tu m'aimes ? Pourquoi tu n'intègres pas mon amour ? Donc tu ne manges pas. Tu ne peux pas rentrer dans ton corps. C'est très, très, très profond ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Ça veut dire que la femme a cette capacité de voir entre. Elle a la capacité de l'entre-deux. Elle a la capacité de la profondeur. Et lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, si tu veux comprendre ta femme, tu dois entendre le col et non pas le dibour. Quand la sœur Tomar Amira, Shma Bekola, lo Shma Bedibura. Est-ce clair? C'est une règle de vie. C'est un sens très profond. Mais moi, qui ne suis pas femme, qu'est-ce que je dois développer chez moi? Bien sûr. Tu dois être capable d'entendre ce degré qui est en. Et c'est comme ça que tu pourras dire le message et de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. Moralité, quels sont entre guillemets les gens dans la période messianique, donc les bénéfices, qui vont être écoutés? Seulement ceux qui parleront comme des femmes. Autrement dit, avec une sensibilité féminine. Ils vont être capables de donner une Torah du commun et non pas une Torah de la différence. C'est clair? Donc le Mashiach aura un côté féminin très développé. Donc il aura un côté très sensible qui sera dans l'entre-deux. D'où est-ce que Moshe Rabbeinu entendait la voix d'Akadosh Baruch Hu? D'où est-ce que Moshe entendait la voix d'Akadosh Baruch Hu? Bien fait, les deux chérubins. Donc, Moshe Rabbeinu entendait la voix d'entre les deux chérubins, encore une fois. Nous devons Moshe et la Kodesh, et c'est marqué, Isma et Hakol, et Kol, Hashem Daber Elam. Il entend le Kol d'Akadosh Baruch Hu. Entre eux. C'est clair? Je veux dire par là que ceux qui veulent entendre et être capables de donner le message d'une Torah messianique doivent savoir parler une Torah du commun. Ok. Dans votre texte maintenant, regardez votre feuille. Je m'en mets. Regardez votre feuille. Réfléchissez bien. Où est la Torah du commun sur cette feuille? Regardez la feuille. Où est la Torah du commun et où est la Torah du détail? Réfléchissez, personnage. Le blanc, c'est la Torah du commun. Je vous ai dit que c'était l'entre-deux. Sur quoi sont posées les lettres noires? Sur du blanc. Donc en réalité, qu'est-ce qui est commun aux deux? Le blanc. Il est et en dessous et autour. Alors que chaque lettre est différente l'une de l'autre. Si je parle la Torah de la lettre, je parle la Torah de la différence. Moi, je suis un lettre, je suis un lettre. Il n'y a pas de lien. Mais si je parle du blanc, le blanc, tu es au-dessus du blanc, oui, moi aussi je suis sur le blanc. Même si je suis une lettre. Toi, tu es une lettre, on est tous les deux posés sur du blanc. Donc, qu'est-ce que commun entre nous? Le blanc. Est-ce que vous savez étudier le blanc? C'est ça la Torah de laquelle je suis en train de parler. Vous comprenez, c'est très secret. C'est une Torah profonde, c'est la Torah du blanc d'entre les lettres. D'ailleurs, comment on dit blanc en hébreu ? Lavan, c'est la même racine que le ben, c'est-à-dire l'entre-deux. C'est la Torah du blanc. Ok, maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que c'est cette Torah ? D'après vous, vous connaissez la Torah de l'être. Qu'est-ce que c'est la Torah du blanc ? Je suis en train de vous embrouiller la tête aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, avant la pratique de ces enfants, on est obligé de dire ça. Donc, qu'est-ce qui est avant ? Oui, mais qu'est-ce qu'on a reçu avant comme cadeau ? C'est une idée qui doit aller travailler, qui doit aller. La vie, tout simplement. La vie. Ça veut dire que quand tu comprends que la Torah que tu dois enseigner est une Torah de vie, tu es entre les choses. Et tu parles le langage du commun. Donc c'est la Torah de la vie. Comment on dit la Torah de la vie ? Être un. Qu'est-ce que Adam Harrison n'a pas voulu manger ? Ephraïm. Il n'a pas voulu manger cette Torah. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Ephadad. C'est-à-dire, il est tombé dans la lettre. Moi, c'est la lettre qui a fait un bœuf, qui fait un dîner. Quand tu tombes dans cette Torah, ça fait la séparation entre les deux. S'il avait consommé de Ephraïm, qu'est-ce qui serait passé ? Il aurait parlé la Torah du commun. Donc tout le monde se serait senti concerné. Maintenant, quand je dis tout le monde, c'est qui ? C'est qui tout le monde ? C'est quoi ? C'est quoi encore ? C'est-à-dire ? Les animaux aussi ? Bien sûr. C'est-à-dire, en réalité, c'est la Torah qui parle de quoi ? Et du minéral, et du végétal, et des animaux, et des hommes, et du peuple d'Israël. Est-ce qu'une Torah comme ça, elle peut être acceptée par toutes les nations ? Bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà étudié cette Torah ? C'est ça le secret de la Torah. Le mot Amalek, maintenant vous comprenez pourquoi la Torah a un effet de référence, parce qu'on s'en fout de ça. Le mot Amalek, ça veut parler à qui ? Aux hommes, aux femmes, aux animaux, aux plantes et aux objets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il savait le langage de toutes ces formes de vie ? Il connaissait la Torah du blanc. Vous comprenez ? C'est une Torah secrète qui est un langage commun. Et si tu arrives à ce niveau-là de connaissance, de cette Torah de vie en fait, la Torah du commun, ça c'est la Torah du Mashiach. Donc la Torah du Mashiach, elle est obligée de nous parler de ce degré. Hello ? Et si je ne traite pas ce degré, parce que je ne l'ai pas étudié, mais pourquoi je ne l'ai pas étudié ? Parce que je ne savais même pas que ça existait. Et vous, aujourd'hui, vous avez reçu un cadeau dans ce niveau. Vous savez maintenant que ça existe. Ça va vous changer la vision des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois trouver pour régler mon problème avec lui ? Le blanc qui est entre les deux, c'est commun. Et je voulais dire, tu sais, t'as l'impression qu'on n'a rien à voir ensemble. Mais j'ai trouvé qu'on a des choses en commun. Et là, je vais le rapprocher de moi. Si je veux parler à un non-religieux alors que moi je suis pratiquant, si je lui rentre dans mon monde à moi, immédiatement je lui balance dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'étouffer, il va se sauver. Mais si je lui dis tu sais, on a un langage commun, seulement toi tu ne l'as pas développé, peut-être moi non plus, viens, on trouve un langage qui est commun entre les deux. T'aimes la vie, non? Moi aussi j'aime la vie. Il y a une Torah qui dépasse complètement, et ta manière de vivre à toi et ma manière de vivre à moi, c'est une Torah de vie qui est intuitive, qui est beaucoup plus forte que tout ça. Viens, on étudie cette Torah. Ah, là, tu m'intéresses.
Okay.
La psychologie, elle est encore au niveau de l'esprit, du psycho. Mais ça, c'est une deuxième, c'est une utilisation. Mais moi, je parle d'avant la psycho, je parle d'une Torah de vie. Vivre, c'est avant réfléchir. On est d'accord ou pas? La réflexion, elle, est déjà un deuxième niveau. C'est parce que je suis vivant que je peux réfléchir. Mais si je ne suis pas vivant, qu'est-ce que tu me demandes de réfléchir? Il y a une Torah qui est intuitive. Quand je sens et je réfléchis, j'ai faim. Oui ou non? Non. J'ai faim, c'est tout. Du soir, ma structure me dit, t'es fatigué, t'es heureux, t'as faim, t'as soif, t'as sommeil. Je dois être à l'écoute de ça. Bien sûr que oui, c'est très important. Mais est-ce que tellement naturel, vraiment naturel, est-ce que la Torah, j'aurais eu besoin de feuilles d'études pour l'étudier ou non? Bien sûr, non. Qui n'a pas eu besoin de feuilles de papier pour être rempli de Torah? Abraham, Israël, Yaakov. Il avait des Gmarot, Abraham, Israël, Yaakov. Il avait des Tanakhs, il avait des livres, il n'avait rien. De quoi tu me parles? Et pourtant, la Gmara nous dit Abraham, Israël, Yaakov avait des reins qui leur enseignaient la Torah comme deux rabbinim. Donc, ils avaient où leurs rabbinim? Dans les reins. Qu'est-ce que c'est les reins? Comment on dit rien en hébreu? Klaïot, au singulier. Kli, ils avaient des kélims, ils étaient eux-mêmes remplis de Torah naturelle. D'où vient le mot naturel? Du mot naître. Nature égale depuis ta naissance, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a mis en nous déjà toute la Torah. Quand est-ce qu'il a mis en nous cette Torah? Non! Non! Dans le ventre de maman, c'est marqué dans la Gemara de Mida, quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'avais déjà reçu toute la Torah. Alors pourquoi j'ai besoin de me recevoir au mont Sinaï? Je vous pose la question. Parce que je suis incapable d'être à l'écoute de cette Torah qui est en moi. Alors on est obligé de me donner une Torah au mont Sinaï. Mais si j'étais normal, j'aurais même pas eu besoin que Dieu descende au mont Sinaï et lui donner la Torah, puisque je l'ai dit. Naturellement, elle est en moi. Ça, c'est la Torah de la vie. Autrement dit, je sais naturellement quelle fête on est aujourd'hui. C'est comme ça que Abraham vivait. Il n'y avait pas de calendrier maintenant, il n'y avait pas de rabbinat. Pour lui dire aujourd'hui, c'est Chagat Shavuot, à l'image des veilleuses, à 15h matin, toi, si tu n'as pas ça, c'est foutu. Lui, non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il dit la chose naturellement. Je sens, je respire. Maintenant, rentre la fête. Maintenant, je dois allumer une veilleuse. Pourquoi je dois allumer une veilleuse? Parce que c'est la meilleure manière de me rapprocher de cette lumière que je veux capter. Incroyable d'être à ce niveau-là. Tu te lèves le matin, tu dis Shabbat Baboker. Vendredi soir, tu sens que le Shabbat rentre, tu te remplis tout ça naturellement. Vous avez ça? Encore une fois, on est coincé dans des papiers, des calendriers à passer sur les frigos, sur les machins, sur tous les parties qu'il y a des feuilles. T'as pas tes feuilles, c'est des discontis, et les machins, t'as pas des écrans, tout foutu, tu te rappelles de rien. C'est pas normal. Comprenez bien qu'on n'est pas dans un état normal. La normalité, c'est comme Akadosh Baruch Hu nous a créé au moment où nous étions dans le corps de Adam et de Chava avant la fête. Nous avons ressenti. J'ai besoin d'une mémoire pour sentir. aujourd'hui. La preuve, c'est que quand on est arrivé au mont Sinaï, qu'on a atteint ce niveau une fois de plus, on arrivait à entendre des voix. Le col, je vous ai dit qu'on n'entend même pas, ils l'ont vu. Pourquoi ? Parce que tu arrives à un niveau où tu vis la chose naturellement, tu n'en as plus besoin. D'ailleurs, à la fin des temps, on va arriver à ce niveau-là. Vélo, il me doux aussi. Tu coulas bien doux aussi. Tu n'auras plus besoin d'aller écouter de cours, il n'y aura plus de cours. Il n'y aura plus de rabbinim qui enseignent à des élèves. Vous savez ça ? C'est une prophétie. Pourquoi ? Parce que tout le monde le connaîtra. Ça veut dire le connaîtra ? Naturellement, connaître, c'est une relation intime. C'est ce qu'on une connaissance. Pas une information. Aujourd'hui, c'était des informations qu'on a. Toujours, c'est des informations. Facebook. Des informations. Mais pas rien, aucune connexion avec rien. L'armée, on te dit qu'il y a une connexion. Tu n'as pas de connexion. Tu as l'impression que tu es connecté. Tu es connecté à Internet. Mais tu n'es pas connecté. Toi, tu n'intègres rien de tout ça. Ça passe. Tu ne te rappelles de rien. Tu as raté un truc qui va le montrer à ta copine. Au bout de 5 secondes, tu dis, ah, ça, j'ai déjà, je sais plus où il est. La véritable connexion, c'est la vie. Aujourd'hui, on vit moins que ce qu'on devrait vivre. Hein? Maintenant, vous êtes connecté. Okay? Maintenant, vous êtes connecté. Parce que vous êtes dans ce lien. Parce que vous comprenez ce qu'on est en train d'étudier ici. Et ça touche un degré qui est le plus profond de votre mécanisme. Pourquoi? Parce que je suis en train de toucher le blanc. Je suis pas en train de toucher l'être, Sam. Tu es en train de pousser quelque chose qui est commun entre tous. Et c'est ce commun qu'il faut mettre en relief maintenant dans la Géoula. C'est ça qui était Ish-Echad Bel-Lev-Echad. On est arrivé comme un seul homme avec un seul cœur. C'est comme ça que je peux aimer n'importe qui de mon peuple. Parce que si je m'affaire à ce qu'il est lui, je ne vais peut-être pas aimer ce qu'il représente. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Mais si tu aimes le blanc, eh bien, le même blanc qu'il a lui, c'est le même blanc que j'ai moi. Le même blanc, il est sous les deux lettres. Et il était avant que je commence à écrire. Et il sera après que j'ai fini d'écrire. C'est pour ça que dans le Sefer Torah, on laisse toujours des blancs avant, pendant et après. Et qu'entre un livre et un autre, il y a quatre lignes blanches. Pourquoi ? Pour te dire que c'est pas dans une suite comme un animal à vouloir un animal bien fait vivre en non. Revient au blanc. Les quatre lignes blanches, c'est les quatre lettres du nom d'Hashem. Yud, Ké, Vav, qui revient dans le blanc. Après, tu pourras recommencer un deuxième livre. Donc, quand vous livrez un parchemin de ce facteur-là, vous voyez qu'il y a quatre lignes blanches entre un livre et un autre. Vous comprenez là ici le sens de ça maintenant ? Et avant de commencer le livre de la Torah, il y a du parchemin blanc. Et après la fin de tout le Sefer Torah, il y a encore du blanc. Et il y a du blanc entre chaque lettre. Pourquoi ? Parce que si deux lettres se touchent, ça a perdu quoi en fait ? La Torah de l'entre-deux. Donc il s'est mélangé tellement à l'autre que tu es mort. Ou toi tu es mort, ou lui est mort. C'est pour ça qu'un couple, malgré le fait qu'il soit marié, doit garder le blanc entre les deux, un espace entre les deux, une liberté entre les deux. Ne croyez pas que parce que vous allez vous marier, vous allez être un avec l'autre, donc mort. Un des deux est mort. D'ailleurs, avant de mourir, ils ont perdu toute leur vie. Rajoutez ça, parce que le lendemain, c'est la mort. Je meurs pour toi. C'est une expression que je n'ai pas hein. Attention, hein. C'est Shrem qui l'a dit pour Dinah. Anochi met à la na'ara azot. Je meurs pour cette fille. Et en français, on tombe. Amoureux. Tu ne peux pas être tranquille. Tu es obligé de tomber. Falling. In love. Ok? suis cholat ahava ami. Je suis malade d'amour. La maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Hein? Mais tous ces degrés-là, il faut savoir que cet amour, il nécessite, il demande, il exige un entre-deux. Donc même quand tu te maries là, garde ta liberté. Parce que si tu n'as pas un blanc autour de toi, et que ton mari n'a pas un blanc autour de lui, vous allez mourir. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on dit « Is ve Issa se zakou »« Shina ben mehem » La Shina, elle est entre les deux. Pas marqué « Betocham » en deux. « Ben mehem » Écoutez bien. Ce sont des précisions dans les mots que quand on est trop hâtif dans l'étude de la Torah même, on ne fait pas attention à tout ce truc-là. Donc faites attention, la Torah que vous êtes en train de recevoir est une Torah d'essence, une Torah de profondeur. Je vous ai posé au début du cours, quelle est cette Torah, justement, pour pouvoir annoncer le messianisme. Je suis en train de vous donner des réponses, vous êtes en train de comprendre petit à petit. Ce sont des clés pour votre vie. Sachez que ce genre de choses n'était pas dit dans les générations d'avant. Sachez que ces secrets sont en train de se révéler aujourd'hui parce que nous sommes en train de comprendre que la Torah est quelque chose de commun à tout l'univers. Ce n'est pas la Torah des Juifs, la Torah d'Israël. La Torah d'Israël, la Torah, c'est une Torah cosmique. Elle appartient à tous. Elle fait vivre un chat, une fourmi, toi et moi, en même temps. C'est ça la véritable Torah. C'est une Torah de vie, Ephraim, qui fait vivre l'univers tout entier. Et si je crois que la Torah, c'est des morceaux de papier avec des lettres, j'ai rien compris. J'ai tout sclérosé. J'ai tout rapporté dans un petit truc de rien du tout. C'est pas ça, la Torah. La Torah, bien entendu, il faut l'étudier, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a perdu cette nature normale. Mais on va y revenir. Comment ça s'appelle ce retour vers cette Torah naturelle? Un seul mot. Nevoua, la prophétie. Qu'est-ce que c'est Nevoua? C'est le blanc. Noun Boa. C'est la venue du blanc, du Noun. Noun, c'est la 50e porte. Noun en valeur numérique, c'est 50. C'est-à-dire que c'est le Noun qui nous pénètre. On a absorbé le Noun. Je veux dire, on est rentré dans les 50 portes de la sagesse et du discernement. Ramitin, Sa'arel, Bina. Bina. Donc, une avis, c'est quoi? C'est un homme qui reçoit en fait la Torah du blanc. Par qui? Par le maître du blanc. Par le maître de l'univers. Donc le blanc est une couleur, oui ou non? Non. Certes. Ça peut être que c'était une couleur. Si c'était une couleur, c'était encore une fois comme une lettre, donc l'unité. Moi c'est un alors, toi c'est un bête. Ou alors moi c'est un gris clair, toi c'est un gris foncé. Non! C'est du blanc. Comment s'appelle Beth Amigdash? Le Vanon. Le blanc. Comment ça s'appelle la Tshuva? L'Oven. La blancheur. Inyu Chata Echem Kassan. Kassel Yalbin. Si vos fautes vous ont rendu rouge, c'est-à-dire que vous avez déjà la couleur, revenez au blanc comme la neige. Ce monde, c'est un monde de fête, d'accord ? On l'a dit. Mais le monde qui est au-delà de fête, c'est la candeur, c'est la blancheur. Blanche neige, c'est le fête, non. Ça vient de là, ça vient de là, j'invente rien. Si, si, si. Seulement, il faut juste décoder. Je fais des recherches sur tous les. Des formes Et ils sont tous liés à ça, seulement vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça la blanche neige, c'est la bina. Et les sept nains, ce sont les sept degrés de ce monde, ce sont des nains. Et malheureusement, on est fait de pieux blanche neige, avec une forme. Okay. Et comme elle est en réalité dans la vie, elle ne peut pas mourir, même si tu penses qu'elle est morte, elle est vivante. Tout ce secret est à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir des secrets de cet ordre-là sortir dans notre vie. Et dans des films, et dans tous les degrés. Aujourd'hui, le cinéma ramène, entre guillemets, à la teshuva autant que des cours. Parce qu'aujourd'hui, les films sont liés aussi à ces valeurs, à ces données. D'ailleurs, il y a un projet, je vous le révèle, dans le milieu des enseignants, de commencer à jouer dans des films. On est en train de créer des scénarios comme si vous alliez au cinéma. Pas un film lourd, Torah, matin. Un film. Alors vous allez me voir courir dans un parc, parce que j'ai entendu une voix, comme un acteur de cinéma. Et on est en train de jouer des rôles différents, chaque rave, entre guillemets, à son tour, avec des caméras de cinéma. Moi, mon rôle, c'est quelque part, je ne le dis pas aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a un film qui est en train de sortir. Avec des rabbins que vous connaissez, comme un film, un véritable film. Ah, on est en train de vous donner un cours. Alors, non. Alors, le message va passer d'une manière cool. Il va voir un film. Donc, il a dit, j'ai vu mon rêve jouer dans un film, comme des acteurs de cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est plus accessible à ceux qui ne viendront pas étudier. Regardez combien on est ici. C'est dommage, non ? Combien reçoit ce message ? C'est dommage. Mon Baruch HaShem s'est filmé. C'est très important. Quand ça filme, il y a immédiatement 2000, 3000, 5000, ça c'est encore dans son truc, il y a 200 en même temps. Mais quand ça vient en Facebook après, des milliers, des milliers, des milliers. Et il commence à comprendre, à intégrer cette Torah du blanc. Et cette Torah du blanc, ça s'appelle Oraita de Atika Sestima'a, c'est un code, c'est la Torah de Atik, de l'ancien, le plus bouché, le plus fermé. C'est une Torah qui est en train de s'ouvrir et qui va en fait en train de descendre sur notre terre. En raison de ça, je ne souhaite pas tous de comprendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut monter sur une haute montagne pour annoncer Sion, la pierre Ben Yosef, et pourquoi il faut élever la voix qui est de l'ordre de l'intériorité, du secret, pour annoncer le potentiel, c'est-à-dire Mashiach ben David, le côté de la Torah. Je continue et je termine. Harim al-Tirai, pourquoi il faut élever et ne pas avoir peur? Parce que c'est la suite de la prophétie. À chaque fois que la Torah nous dit al, ne, ça veut dire que j'aurai peut-être tendance à inverse. Ça veut dire que tu auras tendance à avoir peur d'élever ta Torah. C'est-à-dire, des gens vont venir, vont te dire, tu sais, c'est dangereux. T'as pas peur de toucher ce genre de choses? Le prophète te répond avant. Al-Tirai, on est dans une période messianique qui n'a pas le droit d'avoir peur. Imri, les Haré Yehuda, tu es obligé de dire, et maintenant regardez le mot Imri, Amar, c'est quoi maintenant Amar? C'est déjà expression, c'est déjà à l'extérieur, Imri, les Hémor, Momar, les Haré Yehuda aux villes de Judée, Vine Elohim, voici votre Dieu. Qu'est-ce que c'est voici? Quand je dis voici, c'est que je le vois. C'est déjà quelque chose qui est clair, quelque chose qui n'est pas dans le but, quelque chose qui est palpable à la limite. Et qu'est-ce que c'est le terme de Elohim? Au-dessus de la nature? Non, dans la nature. Et le FM, c'est dans la nature. C'est-à-dire, voici Dieu qui se cache dans la nature. Celui qui ne voyait pas, toi, tu croyais que Dieu était dans le ciel. Notre maître, c'est le ciel. Quel récit ? Non. Nous, on dit, la Samaïm Baal. Il est dans le ciel et sur la terre. Tu avais une question tout à l'heure ? J'ai répondu. D'accord, pas pour le premier degré. Mais une fois qu'il est rentré, tel que tu as touché cette blancheur, tu dis tout seul, j'ai envie de faire partie de tous ces actes en fait qui sortent de cette blancheur. Naturellement, tu vas avoir envie de faire les choses. C'est bon ? C'est pas grave.